Bang Bang.
Double Bang Company.
Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde de Christine Dugoin-Clément, chercheure associée chair risque à l'IAE Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans ce podcast, on va parler des tendances géopolitiques en Europe de l'Est et en Russie. Je suis Rizane Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Christine.
Bonjour.
Comment la démarche prospective peut influencer la compréhension des tendances géopolitiques en Europe de l'Est et en Russie?
La démarche prospective, de toute manière, va être utile que l'on parle de géopolitique ou qu'on parle d'intelligence économique, qui d'ailleurs pour moi en fait partie, puisque la géopolitique, à la base, c'est réellement les tensions et les affrontements que l'on va avoir entre différents groupes, alors qu'on parle d'organisation, qu'on parle d'État ou autre. Et la puissance économique va faire partie de ce jeu de confrontation ou de tension. La prospective va vous être nécessaire pour connaître non seulement votre environnement pas présent, mais de demain, donc pour éclairer la prise de décision de vos décideurs. Que vous soyez sur des décideurs politiques, que vous soyez sur de l'organisation ou de l'industrie ou quoi que ce soit. Donc votre prospective, vous en aurez de toute manière besoin pour pouvoir aller au mieux vers la prise de décision qui sera la plus adaptée, donc la plus performante, sûre et sécurisée en fonction du curseur qui va être pour vous le plus important. Si vous cherchez plus de la performance, plus de la sûreté, ces éléments-là vont être particulièrement importants. Et au demeurant, il faut garder à l'esprit que de la prospective, c'est donc une projection que l'on va faire sur la base d'éléments qui sont en notre propre possession. Quand on va faire de la prospective, quelqu'un qui est à, j'ai usage de le dire assez fréquemment, qui est à 70% de résultats de succès dans ses prospectives est très bon. Et c'est pour ça que quand vous faites de la prospective, normalement, vous faites jamais une proposition unique, mais vous allez en faire plusieurs avec ce que vous estimez être la proportion de survenance, la probabilité de survenance des scénarios prospectifs que vous avez pu faire. Ce qui permet de donner des éléments en disant « voilà, nous avons plusieurs hypothèses » et de justifier pourquoi vous estimez que telle hypothèse prospective sera plus adaptée ou a une plus grande proportion de chances de se réaliser qu'une autre.
Commençons par parler de l'Europe de l'Est et de la Russie.
On est dans une situation qui est éminemment complexe. Alors bien sûr, on a le retour de la guerre de haute intensité que l'on connaît, qui revient sur le continent européen en termes géographiques. Mais ce que l'on a aussi, c'est que ce conflit, il s'étend au-delà du seul champ, si vous me permettez cette approche restrictive, du volet cinétique, du volet militaire. On a évidemment l'approche économique qui a été saisie, alors aussi bien par les différents packages de sanctions qui ont été menés par l'Union européenne, et dont on sait que si c'est une condition symbolique et utile, elle n'est pas forcément à elle seule suffisante, comme dans beaucoup de conflits. Et là, je ferai une incise, mais sur beaucoup qui pointent l'inefficacité de ces sanctions. Bien sûr, ça n'a pas arrêté le conflit, mais on peut s'interroger sur quelle serait la nature du conflit si ces sanctions-là n'avaient pas été prises. Donc, on peut aussi faire une question inversée qui n'est pas aussi rhétorique qu'il n'y paraît quand je vous l'exprime comme ça. Et puis, vous allez avoir tout un volet qui est numérisé, aussi bien par de l'attaque cyber qui va se positionner sur les systèmes, même si on n'a pas assisté à des déploiements d'armes cyber massives comme certains pouvaient le craindre. Et en début du conflit, on parlait de prospective, voilà, ça c'est une approche prospective qui ne s'est pas forcément réalisée, ou du moins pas avec des armes cyber massives, même s'il y a eu une explosion des attaques cyber de différentes sortes, notamment dans les premiers temps du conflit. Et puis vous avez une autre approche qui, elle, est informationnelle, où on va déployer énormément d'opérations d'influence en utilisant des canaux qui sont multiples, donc évidemment tout ce qui va être numérisé, et là on pourra penser à l'usage de réseaux sociaux, à la création de blogs, à des opérations qui en plus emportent un aspect frauduleux, comme Doppelganger par exemple. Donc pour mémoire, Doppelganger, le but avait été de créer des clones d'organes de presse qui jouissent d'une audience importante parce qu'ils sont connue pour être relativement fiable, voire tout à fait fiable. Après, ça dépendra des perceptions, mais l'idée a été celle-là. Et en fait, ils ont été clonés, c'est-à-dire qu'il y a eu de fausses pages ressemblant aux vraies à s'y méprendre, sauf que les articles qui étaient portés répondaient à une ligne éditoriale que ces journaux, avec un travail de journaliste, donc une éthique qui tend vers l'objectivité et la présentation des faits dans son ensemble, eh bien, n'aurait jamais imaginé. Donc, on avait beaucoup d'attaques réputationnelles pour l'Ukraine. On a eu des contenus qui visaient à diviser les soutiens de l'Ukraine, notamment européens, entre eux, et c'est allé jusqu'à faire un espèce de... Alors, le doppelganger, c'est le clone maléfique, hein, notamment dans les jeux de rôle, mais à faire cette copie du ministère des Affaires étrangères française, et c'était la ministre, c'était pas le ministre en exercice, mais c'était sa prédécesseuse, qui avait d'ailleurs... pointer la Russie du doigt derrière cette opération. Donc ça, ce sont aussi des opérations informationnelles, mais là où vous allez utiliser un moyen ouvertement frauduleux, puisque vous allez faire des copies, vous allez faire des faux. Donc on a tous ces éléments-là qui sont extrêmement importants et qui sont d'autant plus importants qu'ils sont en dessous du seuil de déclenchement de la violence légitime. Ce n'est pas parce que un État, quel qu'il soit, est soupçonné ou est déclaré ou est pointé responsable par un autre d'une opération informationnelle que l'on va déclencher une guerre militaire ouverte. Donc vous êtes juste en dessous du seuil, ce qui vous permet de déployer ce genre d'opération, y compris en temps de paix ou en temps de tension, pour essayer d'aller sur ce qui va vous intéresser. Et cette approche informationnelle, elle s'est étendue déjà de manière extrêmement large, avec des narratifs qui sont ciselés en fonction des besoins des uns et des autres. Donc la zone du Moyen-Orient et du continent africain, par exemple, ont été très fortement ciblés au début du conflit ukrainien, où les Européens avaient réagi de manière rapide et coordonnée, ce qui laissait finalement peu de place, ou du moins qui faisait qu'il n'en était pas le point central de l'axe d'effort des opérations russes à ce moment-là, même si on a gardé quelque part ce petit tapis de fond qui pouvait être diffusé. Donc vous allez avoir ce genre de choses. Et vous avez des opérations informationnelles qui vont mêler des actions dans le monde réel et dans le monde digital, l'un servant à renforcer l'autre ou à justifier l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, eh bien, vous pouvez demander à des gens, contre rémunération ou pour idéologie, là, les situations seront différentes, d'aller mener une action dans le monde réel, comme par exemple déployer des tags sur des murs parisiens, dans le but de les reprendre pour les rediffuser dans les réseaux sociaux et donner une caisse de résonance extrêmement importante. Dans ce cadre-là, eh bien, vous avez utilisé un élément, vous avez été opportuniste, hein. Il y avait une réalité de tension, puisque là, je fais allusion clairement aux opérations des étoiles de David, qui d'ailleurs n'ont pas bien fonctionné, elles ont été inventées de manière très rapide. Mais vous allez utiliser un contexte perturbé existant en France suite aux événements en Israël. Vous allez rajouter quelque chose dans le monde physique que vous allez reprendre dans le monde réel. Ça peut marcher dans l'autre sens aussi, en créant de toute pièce un élément numérique, potentiellement en utilisant une intelligence artificielle, et en recréant dans le monde réel quelques éléments qui vont permettre de lui donner du corps, de lui donner de la consistance, et donc de le rendre d'autant plus crédible et persuasif.
Imaginons que le 25 janvier 2025, Donald Trump soit investi président des États-Unis. Cela arrêtera-t-il la guerre en Ukraine ou la fera se répandre ?
Alors, cette guerre, elle s'étend très clairement au-delà des simples... Enfin, du moins, ses conséquences, puisque le conflit physique est circonscrit au territoire ukrainien et russe. Mais ses conséquences sont bien au-delà des seules frontières de ces deux États. On le voit dans les réactions qui vont être prises, et on a aussi des idées sur les conséquences que cela pourra avoir. Que ce soit dans les discours de la Russie, où il est très clairement dit que on est en conflictualité avec les Occidentaux au sens large, donc européens, américains et canadiens en tête de pont, si vous voulez. Et vous avez différents niveaux de conflictualité. Bien sûr, vous avez le conflit cinétique, mais tout ce que je vous ai décrit d'un point de vue informationnel est une forme de guerre aussi, qui va impacter les sociétés humaines en créant de la division, en créant des perturbations, qui va impacter la capacité de prise de décision potentielle des acteurs, organisations ou acteurs étatiques, puisque quand vous êtes dans un contexte éminemment perturbé, eh bien la prise de décision peut être rendue beaucoup plus délicate, et moins vous allez être en capacité de prendre de décisions dans le temps juste, dans le temps imparti, eh bien plus vous allez vous mettre quelque part en danger ou en retrait. Donc vous avez tout cet enjeu-là qui est une autre approche de guerre, plus des approches économiques, offensives, dont certaines font preuve d'une loyauté ou d'une éthique discutable. Donc tout ça, ce sont des éléments qui font que cette forme de conflictualité probablement ne s'arrêterait pas. Vous avez aussi un jeu qui est de participer à la démultiplication des crises. Et cette démultiplication des crises, eh bien, elle permet là aussi, eh bien, de diviser la capacité de réponse des gens, puisque c'est un petit peu comme concentrer votre effort sur un point ou sur plusieurs. Et à un moment, vous allez être obligé de faire des choix. Le temps du choix, eh bien, est un temps où vous n'êtes pas concentré sur un point ou sur un autre. Déjà, vous gagnez du temps, et ensuite, eh bien, vous allez avoir une forme d'évaporation, hein, puisque vous ne serez pas en capacité de concentrer votre effort sur un seul point. On a tous ces enjeux-là. Le pari de la Russie, depuis le début, c'est de compter sur une lassitude occidentale. Alors, lassitude pour plusieurs raisons. Économique, sur une guerre qui coûte cher, parce que les différents soutiens ont des agendas propres, ont des enjeux qui seraient propres, qu'on parle d'agenda politique, qu'on parle d'enjeux sociétaux ou autres. Et puis, par une forme d'habitude, d'entendre parler d'un conflit qui n'en finit pas et qui permettrait d'avoir cette forme de lassitude. Si les Occidentaux ne soutiennent plus les Ukrainiens, qui sont particulièrement dépendants en termes de matériel militaire, ils se défendent depuis maintenant 2 ans en résistant à une offensive massive, elle-même bénéficiant alors d'une économie qui est passée en économie de guerre aussi, d'une masse de contournement de sanctions et des soutiens d'autres pays qui viennent un peu doper la capacité militaire. On peut penser à l'Iran, on peut penser à la Corée du Nord, par exemple. Donc, les Ukrainiens sont dans cette approche de résistance extrêmement forte, mais ils sont dépendants du matériel. Ça a été dit encore récemment pendant la conférence de presse du président Zelensky. Si vous avez un affaissement complet de ce soutien, eh bien, il est bien évident que ce sera beaucoup plus complet. Est-ce que vous arriveriez à une situation de paix stabilisée pour autant? Quand bien même les Ukrainiens s'effondreraient, et nous n'y sommes pas encore, ce n'est pas sûr. Vaincre et maintenir un territoire en forme de paix, c'est pas la même chose. Prendre du territoire et le maintenir, ça n'est pas la même chose. Les Ukrainiens ont une conscience particulièrement aiguë du fait qu'ils se battent à l'heure actuelle pour leur survie. Ceux qui ont connu la russification imposée dans les territoires qui sont occupés et annexés à l'heure actuelle, et rappelons pour mémoire que malgré tout ce que l'on vient de se dire, hein, la Russie n'a pas la maîtrise complète des territoires qu'elle a pour autant annexés. Après 2 ans de guerre, donc vous prenez les différents oblasts, Kherson, Zaporizhzhia, bah, toute une partie est encore pas sous le contrôle. Donc on a tout cet enjeu-là qui fait que est-ce que on arriverait à ce que l'on appellerait du conflit de moyenne ou basse intensité avec une approche de guérilla et de toute façon des pratiques particulièrement offensives sous le seuil, certes, de déclenchement de la violence étatique, donc d'un déclenchement de guerre, mais en étant quand même dans une approche belliciste sur des volets qui seraient beaucoup plus économiques ou informationnels. Bien, ça, c'est quand même extrêmement plausible. Et par ailleurs, l'Union européenne a pris des actions symboliques fortes, essaye de pallier, de se réorganiser pour pouvoir continuer à soutenir l'effort de guerre ukrainien, mais c'est un enjeu qui est extrêmement fort et qui nous a forcé et qui nous force encore à réorienter une partie de notre politique industrielle, notamment concernant le CMI, le complexe militaro-industriel, que ce soit pour être en capacité de monter en puissance de production, de maintenir une offre ou tout simplement de diversifier aussi les fournisseurs de matières premières pour pouvoir continuer à le faire. Et au-delà de ça, on pourrait même rajouter les besoins en formation de personnel qui soit en capacité de participer à cet effort et à ce maintien de production.
Donc, finalement, quelles pourraient être les conséquences d'une élection de Donald Trump ?
Bah, les conséquences seraient un repli imposé par le président du soutien aux Ukrainiens, donc un repli financier. Ça, si tel est le cas, ce serait intéressant de voir aussi quelle serait sa position par rapport à l'OTAN. On sait qu'il avait une position qui était extrêmement dure. Alors, d'un point de vue, en demandant aux Européens de participer plus en expliquant que, ce qui peut s'entendre, mais aussi avec des tentations de repli. Est-ce qu'il serait en capacité d'aller jusqu'au bout de ses effets d'annonce dans l'immédiat? C'est à voir, mais en tout cas, c'est un enjeu et c'est un risque fort. Et alors, un risque pour les Ukrainiens et probablement une aspiration pour le Kremlin.
Et par rapport à la crise énergétique en Europe, est-ce qu'il ne serait pas bon pour l'UE de renouer avec la Russie ?
Honnêtement, tout dépend de ce que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez clairement renouer avec quelqu'un qui passe son temps à expliquer que vous êtes dans une guerre ouverte qui vous menace de manière régulière, notamment de vous retrouver sous une menace de bombe nucléaire en quelques secondes, ce qui a quand même été le point qui a été soulevé à partir d'à peine 10 jours du conflit, au tout début, quand le gouvernement russe a mis sous alerte ses forces tactiques. Ce que vous êtes là-dessus, c'est ce que l'on appelle de la « heavy metal diplomacy », qui a été décliné par un chercheur qui s'appelle Marc Galeotti, où l'idée est d'inviter le discours martial et la menace dans une approche diplomatique où normalement ça n'a pas à le faire. Je pense qu'on a déjà fait une première erreur, certains pays plus que d'autres, en étant totalement dépendants d'un seul fournisseur énergétique, avec les conséquences que nous savons. Le pari avait été fait de dire que finalement, une intrication économique forte serait un gage de paix, puisqu'il y aurait trop de risques à faire casser ces liens économiques pour risquer de rentrer en guerre. On voit bien que ça n'est pas comme ça là, que ça a pu être géré avec la Russie. Vous êtes avec un État qui jusque-là n'a pas respecté les traités qu'ils avaient eux-mêmes ratifiés, le premier étant quand même la Charte des Nations Unies, hein, où on vous dit que vous vous engagez non seulement à protéger la paix, mais à ne pas mener d'action d'invasion unilatérale, mais il me semble que je crois que tout cela n'a pas réellement été fait. Donc vous avez un acteur qui n'est pas forcément digne de foi, qui augmente ses capacités offensives, et pour mémoire, le GRU, donc le service de renseignement militaire russe, s'est restructuré très fortement à marche relativement forcée en 2022, notamment suite à la mise en évidence des échecs connus par les différents services de renseignement FSB et GRU dans les informations qu'ils avaient remontées au Kremlin. Et vous avez tout un volet qui touche sur les opérations informationnelles et ce qu'on appelle en Russie les mesures actives. Ces éléments ont été restructurés. Vous avez maintenant un pôle qui est dédié à ce qui se passe sur le territoire ukrainien, dont le commandant est rattaché à la tête du pilotage de l'opération militaire spéciale, comme on dit au Kremlin. Et vous avez un volet qui est centré sur les autres pays. Donc, est-ce que vous voulez être dépendant économiquement d'un pays qui cherche de manière régulière à vous déstabiliser et à attaquer vos processus démocratiques?
Clairement, non.
Moi, je vous laisse juger.
Pour la France, quelle serait l'anticipation stratégique à avoir?
Alors, écoutez, elles sont multiples. On a pris un rôle, et on avait un rôle déjà important en Ukraine depuis même 2014, hein, depuis 2013 et 2014, le Maïdan, où les Russes ont commencé à pousser à visage couvert et à armer les séparatistes de l'Est de l'Ukraine, hein, dans les territoires du Donbass, de Donetsk et de Lugansk notamment. Et depuis le tout début, nous sommes partenaires de ce qu'on appelle les réunions au format Normandie avec l'Allemagne. Nous avons participé aux différents groupes de Minsk. Donc nous sommes un acteur important depuis le début dans ce conflit de longue haleine. Hein, puisque n'oublions pas que, ok, nous avons une invasion massive à visage découvert à partir de février 2022, mais que la conflictualité en elle-même vient de bien plus avant. Donc on n'est pas sur la même approche. La position a été claire et elle a été annoncée en disant que nous n'étions absolument pas contre le peuple russe, ce qui est le cas, mais que la politique déployée par le régime actuel était inacceptable. D'ailleurs, elle ne s'inscrit pas dans les traités que j'ai précisés plus avant. Il y a des instructions pour crimes de guerre, point n'est besoin de vous rappeler Boutcha, notamment, entre autres choses. Donc on est dans une position de soutenir le peuple ukrainien et par ailleurs, eh bien, quand on est dans cette approche-là, quand bien même j'aurais une vision stratégique particulièrement précise, il ne me reviendrait pas de la donner de manière détaillée puisqu'on est dans une approche stratégique et extrêmement tendue.
Merci Christine.
Je vous en prie, bon courage, bonne journée.
Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. À bientôt. Ciao, ciao.
Bang Bang. Double Bang Company.